Alors, salutations à tout le monde. Il y a deux choses inévitables dans la vie de tout être humain. On entend parfois les gens blaguer à ce sujet-là. Premièrement, la mort. Deuxièmement, les impôts. Alors, c'est deux choses qu'on ne peut absolument pas éviter. Mais il y en a une troisième qu'on pourrait ajouter à la liste facilement, et ce sont les frustrations. Alors, le titre de mon message aujourd'hui, « Comment vaincre nos frustrations? » En tant que chrétien, on sait par la Bible qu'on doit imiter le Christ. C'est lui qui est notre modèle en toutes choses. Et par rapport au sujet que je veux traiter aujourd'hui, la question des frustrations qui nous arrivent à tous régulièrement, il ne faut pas nous laisser ralentir par ces frustrations-là qui viennent inévitablement. Il ne faut pas se laisser ralentir. Il faut apprendre, au contraire, à affronter ces frustrations-là, à les surmonter, à les vaincre. Et on va voir un peu comment aujourd'hui. On a besoin de savoir comment. Parce que parfois, on a des réactions émotives face à ce qui se passe, mais si on n'a pas les outils pour aller plus loin, on en devient victime pendant longtemps parfois. Et plus nous apprenons à surmonter nos frustrations, plus nous développons en même temps la maturité spirituelle. Plus on développe la maturité spirituelle. Et bien sûr, la maturité émotive, parce que ce sont des choses en rapport avec les réactions humaines, avec nos émotions. Je pense que c'est important, en commençant, de définir ce que c'est une frustration. Une frustration, c'est le sentiment de déception. C'est le sentiment de déception quand on est empêché d'atteindre un but qu'on voulait atteindre. Sentiment de déception quand on est empêché d'atteindre un but qu'on voulait atteindre ou de réaliser un désir qui nous tenait à cœur. Quand on est empêché de le faire, on devient frustré, on est déçu, on a un sentiment de déception. Je pourrais le décrire autrement, puis le définir autrement en disant, c'est le sentiment de déception quand on est privé d'un bien ou d'un avantage promis ou attendu. Ça ne vient pas, ça ne nous est pas accordé, on l'attendait, on est frustré, on est déçu que ça ne nous soit pas accordé. Ou on est privé d'une satisfaction désirée. Même si ce n'est pas quelque chose de mal, on désire quelque chose, même qui est bien, mais qui ne se produit pas, on ne peut pas satisfaire ce désir-là. À ce moment-là, il y a une frustration et il y a une déception qui vient avec. Et de façon générale, quand il y a frustration et déception comme ça, il y a des effets négatifs qui jouent sur nous. Ça, il faut le connaître. C'est pour ça que je vous décris la bête, si vous voulez, pour qu'on sache comment y faire face. Alors, il y a des effets négatifs qui arrivent sur l'être humain dans ce temps-là. Il y a des anxiétés qui se produisent, des anxiétés mentales. Et parfois, on cherche le moyen de quand même arriver à cette fin-là, même si ce n'est pas possible. Et parfois, on se met dans beaucoup de problèmes, même pour y arriver. On se fiche des buts qui ne sont pas réalisables ou des choses comme ça. Et là aussi, c'est une autre erreur qu'on peut faire. Mais donc, parmi les effets de ça, de cette déception-là, de cette frustration-là, l'anxiété mentale, les soucis, quand on conserve cette chose-là trop longtemps puis qu'on l'alimente, les soucis augmentent. L'appréhension de ce qu'on n'a pas eu, de ce qui nous manque. Parfois, il y a de la nervosité. Parfois, il y a de l'agitation. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'on a ce genre de déception parce qu'on est empêché d'atteindre un but, de réaliser un désir ou de voir arriver quelque chose qui nous était promis, à ce moment-là, il y a toujours des réactions émotives, des bouleversements émotifs en dedans. Mais on doit apprendre à se maîtriser. Et se maîtriser, c'est maîtriser nos pensées, maîtriser nos actions, maîtriser nos réactions aussi. Et c'est un fruit de l'esprit, hein, la maîtrise qu'on doit avoir de nous-mêmes. Parce que quand il y a ces effets négatifs-là que je vous dis, quand il y a une frustration qui prend le dessus sur nous et qu'on la garde, si vous avez remarqué, on manque d'assurance. Et on manque d'une autre chose encore plus grave à manquer, c'est la paix d'esprit. La paix d'esprit s'en va. Parce qu'à un moment donné, on insiste trop pour cette chose-là. On lui accorde une importance parfois qu'elle n'a pas au point de départ même. Ça, c'est le cœur humain parfois qui va dans ce sens-là. Je vous pose une question. Est-ce que vous avez vécu des frustrations la semaine dernière? Je ne vous demanderai pas de lever la main, mais est-ce que vous avez vécu des frustrations? Je vois des sourires tout dans la salle, un peu partout. Si vous êtes des êtres humains, oui, vous en avez eu. Oui, vous avez eu toutes sortes de frustrations. Peut-être vous avez été pris dans une congestion de circulation alors que vous aviez un rendez-vous. C'est une frustration. On vous a coupé en avant de votre voiture. Vous avez risqué d'avoir un accident. C'est une frustration. Vous avez eu trop de travail. Vous aviez fixé comme but de finir telle ou telle chose. Mais vous en avez été empêché par toutes sortes de raisons. C'est une frustration. On n'a pas atteint ce qu'on visait. Quelqu'un n'a pas, livré la marchandise. Il vous avait dit qu'il ferait telle chose pour vous ou avec vous ou qu'il vous enverrait quelque chose. Ça n'a pas été fait. Donc, il y a eu une frustration. Il y avait une attente qui n'a pas été réalisée. Il y a une personne qui peut-être a refusé une de vos invitations, qui était gentille, charmante. Peut-être vous n'avez pas compris ou vous ne comprenez pas encore pourquoi la personne a refusé l'invitation. Mais quelle que soit la raison, peut-être vous avez été frustré. Et peut-être que vous avez gardé cette frustration-là. Et ça crée des dérangements émotifs à l'intérieur de nous. Des échecs qu'on a. Et on en a tous des échecs. Des échecs qu'on rencontre créent des frustrations. Ce sont des frustrations. Pourquoi? Parce qu'on a manqué la cible. On visait quelque chose, puis on ne l'a pas eu. Ça n'a pas arrivé comme on voulait. Même lorsqu'il nous arrive en tant que chrétien de manquer notre coup, malheureusement ça nous arrive, et de transgresser une loi de Dieu, c'est une frustration parce qu'on a manqué notre coup. Et on s'en veut d'avoir manqué notre coup comme ça. Heureusement, la Bible nous dit que quand ça nous arrive de manquer, parce qu'on est encore humain, on peut aller, comme c'est écrit dans les textes, devant le trône de Dieu, son trône de miséricorde, pour être pardonné de la faute qu'on a commise et être secouru pour ne plus la commettre. Alors, voyez-vous, c'est quand même des frustrations quand on a manqué notre coup. Peut-être que vous avez eu des rapports conflictuels avec une personne ou l'autre cette semaine. Peut-être qu'il y a eu des petits conflits avec des membres de la famille ou des gens autour ou des gens au travail ou à l'école. Ce sont des frustrations. Chaque fois, ce sont des frustrations. Je me rappelle, M. Ames a raconté une histoire à un moment donné dans un sermon. Il parlait, quand il était à l'ambassadeur collège, il enseignait là-bas, et il y avait 3-4 étudiants qui habitaient ensemble sur le campus de l'ambassadeur collège. Et après le début de l'année, quelques temps après le début de l'année, ces gens-là, ces garçons-là, étaient toujours en conflit. M. Ames est allé les voir pour essayer de faire le pont entre eux autres pour que les choses s'arrangent, pour qu'ils soient capables de passer par-dessus ces conflits-là, de régler leurs conflits, puis de laisser ça en arrière, puis avancer. Puis ça voulait pas. Puis à un moment donné, M. Ames explique, il leur a posé la question. Il a demandé à chacun, est-ce que vous étudiez chaque jour la Bible? Est-ce que vous parlez à Dieu chaque jour en prière? Puis aucun de ces garçons-là ne le faisait. Aucun ne le faisait. Alors là, il leur a expliqué comme il faut. Il dit, si vous n'étudiez pas la Bible chaque jour, et si vous ne priez pas Dieu chaque jour, ce n'est pas étonnant que vous ayez des conflits. Parce que quand on parle à Dieu chaque jour, qu'on lui remet nos soucis, nos problèmes, nos difficultés, qu'on lui demande son aide, quand on regarde dans sa parole comment agir dans telle ou telle situation, on a les réponses. On sait comment faire. Mais si on ne prie pas Dieu, si on n'étudie pas, c'est normal qu'on n'ait pas la force, qu'on n'ait pas la sagesse, qu'on n'ait pas la perspective pour savoir comment régler les conflits. C'est intéressant, j'ai trouvé l'exemple vraiment, vraiment bon. Il ne faut pas oublier une chose. Et c'est pour ça qu'il faut étudier chaque jour, puis lire la Bible, l'étudier, je veux dire, et prier chaque jour. C'est basé sur un principe qui revient à plusieurs occasions dans la Bible. Le juste, c'est-à-dire celui qui veut pratiquer la justice, vivra par quoi? Par la foi. Le juste vivra par la foi. Sa vie va être orientée là-dessus et la force va lui venir de ce que Dieu va lui donner. S'il vit selon la justice, il va vivre selon la foi. On voit ça dans Romains 1, verset 17, vous pourrez aller voir. Allez à Romains, chapitre 10. Romains, chapitre 10, on va aller un petit peu plus loin. Romains, chapitre 10. Alors, la personne qui veut pratiquer la justice de Dieu, bien, elle veut la connaître, la justice de Dieu. Alors, elle va l'étudier dans sa parole. Et elle veut en vivre, parce que là, ça va donner des fruits dans sa vie. D'où vient la foi qui nous communique la force de vivre chrétiennement? D'où est-ce que ça vient, la foi qui nous communique cette force-là de vivre chrétiennement et de surmonter les frustrations dont je vous parle? Romains 10, verset 17, très simple. Plusieurs d'entre vous, j'espère, vous pouvez citer ce verset-là par cœur. La foi vient de quoi? Vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, si je ne l'entends jamais, la parole de Christ, si je ne m'en nourris pas chaque jour, je n'ai pas la foi de Christ. Et je n'ai pas la perspective qu'il faut pour affronter les difficultés de la vie, puis les frustrations qui viennent automatiquement. Proverbe 14. Proverbe chapitre 14. On va lire la première partie du verset 26. Regardez ce qui est écrit ici, dans Louis II, dans la version Louis II. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Dans Louis II, c'est ce qui est écrit. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Mais dans le texte original, puis on le retrouve plus précisément dans la version anglaise King James, le sens de cette phrase-là ici, ça dit « Celui qui craint l'Éternel a une confiance solide. » Celui qui craint l'Éternel a une confiance solide, voyez-vous? Celui qui craint l'Éternel, c'est celui qui s'applique à vivre selon ses lois, selon ses voies. Et plus on le fait, plus on a une confiance solide. Mais oui! On est appuyé sur le rocher des siècles, sur le Christ, sur la parole de Dieu. Et on sait où se tourner pour avoir l'aide nécessaire. Cette personne-là développe une confiance solide, d'abord en Dieu, puis ensuite dans son avenir, parce que Dieu lui a promis un avenir précis, soutenu, encouragé. Et cette personne-là, à ce moment-là, elle est capable de voir, je dirais, au-delà, par-dessus, des circonstances frustrante du moment actuel. Parce que quand les frustrations arrivent, là, on est pris avec, c'est là, maintenant, là. Mais si on a la vision plus grande, la perspective de Dieu par rapport à ça, c'est qu'on ne se laisse pas être digéré par les frustrations actuelles. On voit plus loin. On demande à Dieu de nous aider à passer à travers aussi, et il nous aide à passer à travers. Comme je disais au début du message, les frustrations, c'est quelque chose d'inévitable. Mais elles ne doivent pas nous empêcher d'avancer vers le but chrétien. L'adversaire, lui, Satan, sait que par les frustrations et par les déceptions que les circonstances nous amènent régulièrement, lui peut essayer de nous ralentir ou de nous faire dévier ou de nous faire douter de Dieu ou de nous dire « Vous n'êtes pas capable d'arriver au salut, vous ne serez pas capable de vous rendre. » C'est vrai qu'on n'est pas capable nous-mêmes, mais par la force de Dieu, oui, on est capable. Mais pour avoir sa force, il faut aller là où on peut la trouver, se nourrir du Christ, en écrit ici chaque jour, et demander à Dieu de nous aider. Luc, chapitre 9. Luc, chapitre 9. Et nous allons lire le verset 23. Luc 9 et le verset 23. Puis le Christ dit à tous... Si quelqu'un veut venir après moi, donc devenir chrétien, marcher dans ses voies, imiter le Christ, qu'il renonce à lui-même, à ses anciennes façons de faire, aux façons de faire qui ne sont pas conformes aux lois de Dieu, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Et il y a inévitablement pour tous les êtres humains des lourdeurs à porter, des croix à porter dans nos vies, des circonstances difficiles, pesantes. Et qu'il me suive. Regardez bien ce qu'il dit. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Il y a des maladies, on en a parlé tantôt dans les annonces. Et ça arrive à tout le monde, qu'on soit dans l'Église ou non. Il y a des maladies qui existent. Il y a des infirmités, il y a des difficultés financières. Il y a des problèmes de solitude parfois, problèmes de pauvreté, problèmes de rejet parfois par d'autres. Et tout ça... On peut dire, ben voilà autant de croix que nous avons apportées. On a ces croix-là apportées. Oui, on les a apportées, mais il faut continuer d'avancer malgré ces croix-là apportées pour suivre le Christ. C'est ce que le Christ vient de dire ici. Il dit, il faut qu'on renonce à nous-mêmes, qu'on se charge chaque jour de chacun notre croix ou des chose qu'on a à vivre, et qu'on suive le Christ. Alors, première chose, oui, on a ces choses-là qui sont là, qui ne se règlent pas toujours immédiatement, qui prennent parfois un certain temps. Certaines choses vont rester avec nous toute notre vie. Vous vous rappelez, l'apôtre Paul a demandé à Dieu 3 fois d'être guéri d'une maladie particulière. À un moment donné, Dieu lui a dit, « Ma grâce te suffit. » Dans ton cas, je ne te guéris pas. Il n'a pas donné les raisons. Mais Dieu avait des raisons sûrement de laisser Paul avec ce problème de santé. Ça ne l'a pas empêché Paul de continuer d'être fidèle puis de terminer le travail que Dieu lui avait donné. C'est ça, continuer d'avancer malgré les croix qu'on a à porter, même en portant certains fardeaux. Mais quand ces fardeaux-là sont là, ou quand les frustrations, je reviens à ça, quand les frustrations arrivent, la première chose qu'on doit faire, c'est de crier à Dieu. Première chose qu'on doit faire, il faut s'habituer, en toute chose, à lui remettre tout entre les mains. Tout entre les mains. La Bible dit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Et souvent, vous devez être un peu comme moi, souvent, il arrive une frustration, puis on ne pense pas immédiatement de se tourner vers Dieu. On vit la frustration, on y goûte, on la laisse parfois prendre de la place, et là, à un moment donné, ça devient plus grave, il y a de l'amertume, il y a des choses qui s'enveniment, et puis après ça, on pense à demander à Dieu. Mais on est déjà plus loin sur le chemin. Pourquoi ne pas intervenir tout de suite, arrêter tout ça là, aller demander à Dieu tout de suite de nous aider à passer à travers, d'être délivré du sentiment de déception qui nous habite à ce moment-là parce qu'il y a une grande frustration qui vient de nous arriver. On peut y en parler tout de suite, puis demander son aide. Et juste le fait de remettre ça dans ses mains, puis de lui laisser, déjà ça enlève un fardeau. On peut demander à Dieu, si c'est ta volonté, enlève cette frustration-là, fait que la circonstance change. Mais si ce n'est pas ta volonté, par contre, donne-moi la force à moi de passer à travers. Voyez-vous la différence? C'est que là, vous associez Dieu à ce que vous vivez. Et Dieu va répondre. Parce que Dieu veut que vous appreniez à travers tout ça. Il veut que vous développiez dans tout ça une foi de plus en plus forte à mesure des événements que vous allez vivre. Et c'est beaucoup mieux, laissez-moi vous dire, de faire ça plutôt que d'entretenir la frustration et de s'apitoyer sur son sort. Parce que des fois, il y a quelque chose qui arrive, pas comme on avait voulu, on n'a pas réussi à avoir telle chose, on n'a pas atteint tel but, ou telle frustration arrive, et ça nous désole, et on se tourne vers soi-même, et là, on commence à gratter le bobo, puis gratter le bobo, puis gratter le bobo, et plus on gratte le bobo, bien plus le bobo s'étend, et l'infection s'étend. Mais on ne s'en rend pas compte, mais on se fait mal à nous-mêmes, plutôt que de nous tourner vers notre grand médecin qui, lui, prend soin de nous. Psaume 25. Psaume chapitre 25, on va lire pour commencer versets 1 à 3. C'est David qui parle. « Éternel, j'élève à toi mon âme. Donc, je me tourne vers toi. Mon Dieu, en toi, je me confie. » Je te fais confiance, Dieu. C'est vers toi que je me tourne dans toutes mes difficultés. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à ton sujet. Verset 3. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ils vont avoir une réponse. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles, sans cause. Mais ceux qui travaillent à être fidèles à Dieu auront réponse. Peut-être pas toujours la réponse qu'ils souhaitent avoir, mais ils auront une réponse. Et il faut à ce moment-là s'attendre à ce que Dieu nous réponde et regarder de quelle façon Dieu va nous répondre. Attendre sa réponse. Versets 4 et 5. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Voyez-vous sur quoi doit être basée cette confiance-là? Elle vient, cette confiance-là, si on est capable de demander à Dieu, montre-moi tes voies et donne-moi de faire ta volonté de vivre selon ce que tu veux que je vive, selon tes lois, tes voies. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Et parfois, Dieu se sert, pas que parfois, toujours, Dieu se sert des circonstances qu'il permet qu'on vive pour nous enseigner ses voies, justement, et pour développer le caractère qu'il veut voir se développer en nous, pour nous préparer en tant que futur administrateur de la terre sous le Christ. En tant que futur enseignant, futur dirigeant, qu'on ait différentes expériences et qu'on ait passé par-dessus ces choses-là, qu'on ait vaincu ces choses-là et qu'à travers les épreuves, on ait développé son caractère juste. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité. Il y en a juste une. Et instruis-moi. car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Toujours mon espérance. Nous sommes testés. Je ne vous apprends rien. Dieu nous teste. M. Armstrong nous l'a expliqué souvent. Dieu nous teste tout au long de notre vie, après qu'il nous appelle, dans toutes sortes de circonstances. Des fois, des circonstances difficiles, parfois des circonstances faciles. Mais on est testé, parce qu'il veut voir comment nous réagissons à toutes sortes de circonstances, à toutes sortes de situations. Et en ça, il développe son caractère en nous. Pour ça, je dis qu'il faut affronter les frustrations avec la foi du Christ, avec le Christ en nous, en comptant sur lui, en comptant sur Dieu et en regardant plus loin que l'instant présent, en ayant toujours les yeux sur quelque chose de plus loin, le but de notre appel, le but de notre vie. Et dans ce sens-là, je vais plus loin, j'explique un peu plus. Il faut faire attention de ne pas centrer nos pensées sur nous-mêmes. Vous savez, le pauvre petit moi qui est frustré, qui n'accepte pas telle chose, qui n'a pas eu ce qu'il voulait avoir. Et le pauvre petit moi est porté à se tourner vers le pauvre petit moi et à gratter le bobo, comme je vous dis, puis à se trouver de plus en plus malheureux de ne pas avoir ce qu'il aimerait avoir ou ce qu'il attendait. Et là, il creuse, pour ainsi dire. Il creuse une tranchée, il est de plus en plus à l'étroit et mal pris. Il n'est pas sorti de son problème, il entre dans son problème. Il faut faire attention, en tant qu'être humain, de ne pas centrer nos pensées sur nous-mêmes ou de ne pas non plus centrer nos pensées sur le matériel plutôt que sur le spirituel. Ça ne veut pas dire que le matériel n'a pas d'importance. Il y a des lois que Dieu nous donne pour être de mieux en mieux sur le plan matériel, sur le plan physique, sur le plan de la santé et tout ça. Mais il ne faut pas que le fait de posséder des choses devienne la chose la plus importante de notre vie. C'est de mettre un autre Dieu en avant de Dieu, ça. Faire au mieux avec ce qu'on a, donner des bonnes journées de travail à nos employeurs, être économe, faire attention, faire comme la fourmi, mettre de côté tout ce qu'on peut mettre de côté pour les jours plus difficiles qui viennent. Ça, c'est ce que Dieu nous montre à faire pour que matériellement, on fasse notre part. Mais il ne faut pas que cette chose-là devienne la chose principale de notre vie. Matthieu 6, quel est le remède contre ça? Matthieu chapitre 6. Vous le connaissez, le remède, j'espère que vous êtes capable de le dire par cœur. Matthieu 6, verset 33. Ça, c'est un verset clé qui est au cœur du message que je vous donne aujourd'hui. Comment vaincre nos frustrations? Matthieu 6, verset 33. Qu'est-ce que le Christ nous dit? Cherchez premièrement le royaume. C'est ce qui s'en vient. C'est ce que Dieu va établir sur la terre quand le Christ va revenir bientôt. Et ceux qui appartiennent au Christ vont faire partie de ce royaume, de ce gouvernement, de cette famille royale dirigeante quand le Christ va revenir. Cherchez premièrement le royaume. Et si on cherche premièrement ça, on fait ce qui vient tout de suite après. On pratique la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Parce qu'avec la venue du royaume, il y aura établissement enfin d'une vraie justice sur la terre. Et c'est pour ça qu'il y aura la paix après, qu'il ne peut pas avoir avant. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tout le restant, ce qu'on aura besoin, Dieu va s'en charger. C'est un entraînement à avoir, c'est une autre façon de voir les choses à développer. On ne l'avait pas avant de connaître le vrai Dieu. Avant de voir à quel point il est prêt à s'intéresser à tous les détails de notre vie, dans les moindres recoins de notre vie, si vous voulez. Vous savez, Dieu nous a donné, en nous appelant, en nous révélant son plan, un but extraordinaire dans la vie. C'est un but unique, c'est le vrai but de la vie, le seul vrai but. La potentialité humaine de devenir un jour les enfants, les fils et les filles de Dieu dans sa famille, d'être transformés en êtres spirituels au retour du Christ d'ici quelques brèves années. Si on cherche le royaume de Dieu, si on s'y prépare, en changeant notre façon de vivre, en vivant selon la justice de Dieu, qu'est-ce qui arrive par rapport aux frustrations? C'est que c'est ça qui prend le dessus, c'est ça qui est l'image principale chez nous, dans notre vie, dans notre esprit. Alors comprenez-vous qu'à ce moment-là, on est capable de minimiser l'importance des frustrations du moment d'aujourd'hui. Parce qu'on a un grand but qui est en avant, qu'on ne veut pas manquer. Ça, c'est le vrai but de l'existence humaine. Tout le restant, ça va disparaître. De toute façon, même nos frustrations vont disparaître aussi. Et quand on fait ça, quand on cherche le royaume, quand on cherche la justice, on minimise les effets des frustrations dans notre vie et on relativise ces choses-là. Vous savez, il faut s'éloigner de ce que j'appellerais que ma volonté soit faite, en parlant de moi, en parlant de moi-même. Parce qu'au point de départ, on veut tous ce qu'on veut, hein? On voit les choses à notre façon, puis on veut des choses à notre façon, à notre temps aussi, selon notre horaire de temps. Alors, il faut s'éloigner du « que ma volonté soit faite ». Ou il faut s'éloigner encore de cette phrase, si vous voulez, « je veux les choses à ma façon et en mon temps ». Quand on arrive à l'Église, je pense que je ne me trompe pas en disant ça, on est tous imbus de cette approche-là. Ce que je veux, c'est ce qui est correct. On définit le bien comme étant ce qu'on veut nous autres. Mais Dieu nous montre que le bien et le vrai et le pur, c'est ce que lui définit selon ses lois. Je vous donne l'exemple du Christ. Même avant de souffrir les moments les plus atroces de son existence, avant d'être arrêté puis d'être martyrisé, d'être crucifié puis de mourir sur la croix pour nous, même avant d'affronter ces pires moments-là, quand il est allé prier au jardin de Gethsémani, qu'est-ce qu'il a dit à son Père? Il a demandé si c'était possible de procéder autrement, il serait bien content. Mais à la fin de sa prière, il a dit à son Père que « ta volonté, Père, soit faite et non pas la mienne ». C'est fort. Puis c'était la situation la plus dramatique, la plus horrible de sa vie sur la terre. Mais il était venu pour ça et il voulait atteindre son but. Il voulait l'atteindre, le but, et il l'a atteint. Il est resté fidèle jusqu'au bout. Et c'est pour ça que le Christ, quand il nous a donné un exemple de prière, un modèle de prière dans Matthieu 6, que les gens appellent notre Père, là, on ne répète pas les mots, comme dit, le Christ lui-même nous a dit, ne répétez pas des vaines paroles comme les païens, mais parlez à Dieu comme on parle à un ami. Quand il nous a donné cette prière modèle-là, il y a un élément majeur de cette prière-là qui dit « que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux ». Voyez-vous? Alors, le Christ veut que la volonté du Père soit faite dans sa vie à lui, dans la nôtre en tant que chrétien maintenant, et bientôt, quand son royaume sera établi, la volonté du Père va être faite sur la terre. Et là, les gens vont pouvoir être heureux, être unis avec Dieu, puis vivre selon les lois qui apportent le bonheur. Rapidement, je vous donne quelques stratégies ou des moyens pour vaincre les effets négatifs de nos frustrations. Là, on a décrit les frustrations, on a vu en gros comment aborder la chose en se confiant à Dieu. Maintenant, je vais vous donner quelques stratégies pour vaincre les effets négatifs de nos frustrations. Première stratégie, ou premier moyen, se soumettre vraiment à la volonté de Dieu. Se soumettre vraiment à la volonté de Dieu. 1 Jean chapitre 5. Allez à 1 Jean chapitre 5. Une promesse. On a besoin des promesses, ça nous encourage. Surtout quand on sait que Dieu est un Dieu infaillible, et que Dieu les réalise toujours, les promesses qu'il fait. 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15. « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, en parlant de Dieu, il nous écoute. » Quand un être humain que Dieu appelle se tourne vers Dieu, Dieu écoute. C'est ce qu'il dit ici. Dieu prête l'oreille. Qu'est-ce qu'elle me demande? Qu'est-ce qu'il me demande? Et il est prêt à répondre. Dieu n'abandonne jamais celui qui se tourne vers lui. C'est une autre promesse qu'on trouve dans la Bible. Alors ici, Jean écrit, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. » Alors la demande, elle est devant lui. Il la considère. Il donne une réponse, que ce soit maintenant, que ce soit plus tard, que ce soit d'une façon différente qu'on a pensé. Mais si notre cœur est à lui obéir, si on cherche à faire sa volonté, si notre demande, elle est selon sa volonté, on peut s'attendre à ce que la réponse vienne. Quelqu'un va dire, oui, mais c'est quoi la volonté de Dieu? Comment connaître la volonté de Dieu? C'est pas compliqué. C'est ça ici, le guide de vie. De la Genèse à Apocalypse, la volonté de Dieu est décrite dans toutes les pages de la Bible. Vous avez le témoignage de nombreux serviteurs de Dieu. Vous avez l'explication des lois de Dieu, des fêtes de Dieu, des façons de vivre chrétiennement, comment plaire à Dieu, et ainsi de suite. Tout est là. C'est ça, sa volonté. Alors, il faut la découvrir, la comprendre, et lui en parler, lui demander de nous aider à faire sa volonté, à travers les 10 commandements dans notre façon de vivre, à travers les fêtes que lui a décrétées, que ce soit des fêtes que nous célébrions et que nous cessions de célébrer les fêtes qui ne sont pas les fêtes de Dieu et de vivre chrétiennement. C'est intéressant parce qu'il y a quelque temps, il y a quelqu'un de l'Église universelle de Dieu autrefois que j'ai connu il y a plusieurs années qui m'a téléphoné. J'étais content d'avoir ce téléphone-là. On a jasé pendant un bon bout de temps. Et j'étais content de reprendre contact avec la personne et tout ça. Mais là, j'ai vu que le voile avait retombé sur les compréhensions que la personne avait avant. Parce qu'elle a cessé de pratiquer le sabbat, la personne a cessé d'observer les fêtes, et bien des choses. Pourtant, c'est une personne au bon cœur, puis elle essaie de faire du bien autour d'elle le plus possible. Je sais que je la connais, puis elle n'a pas changé là-dessus, sauf qu'elle ne comprend plus le plan de Dieu. Je sais pourquoi, parce qu'il faut le mettre en pratique pour le comprendre. Mais elle ne le comprend plus. Et à un moment donné, la personne m'a dit, « Monsieur Brochu, elle dit, moi, je suis une personne chrétienne. » Et elle dit, je connais beaucoup de personnes chrétiennes qui sont un peu partout dans d'autres églises ou qui ne vont pas nulle part, qui sont des très bons chrétiens. Elle dit, ah oui, c'est bien. C'est intéressant d'avoir votre commentaire là-dessus. Parce qu'elle dit, ces personnes-là font du bien. Elle dit, moi, j'essaie de faire du bien le plus possible. J'essaie de ne pas nuire à mon prochain. Ah, bien, c'est bien. C'est bon de faire ça. Mais j'ai dit, écoutez, autant qu'il y a d'êtres humains sur la face de la terre, on pourrait trouver autant de vraies définitions de ce qu'est un chrétien. Et une personne peut se penser chrétienne, sincèrement puis de bon cœur, mais que ça ne réponde pas à la définition que Dieu lui donne d'un chrétien. Alors, j'ai dit, si vous voulez, je vais vous donner quelques passages qui vont vous aider à identifier vraiment qui est un vrai chrétien. Et la personne était vraiment intéressée. J'ai donné les versets. Déjà, j'ai vu que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas lu ces mêmes versets-là, puis je pense que la personne est restée un peu surprise. Ça peut lui donner de matière à réflexion. Je l'ai emmené dans Romains 8, verset 9. J'ai dit, vous voulez savoir qui est un vrai chrétien selon Dieu? C'est les seuls vrais chrétiens possibles aux yeux de Dieu. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, en parlant de l'Esprit de Dieu, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Voyez-vous? Alors, pour être chrétien, pour appartenir à Dieu, il faut que l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Christ, habite en nous. Bon, ça aide déjà à préciser. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Regardez après ce qui est dit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, cette personne-là me parlait de quelqu'un qui n'observait pas les fêtes, de gens qui, elle-même n'observait plus les fêtes, ni les sabbats, ni rien de ça, mais elle disait faire du bien quand elle pouvait, et que parce qu'elle faisait ça, elle était certaine d'être une personne chrétienne agréable à Dieu. Alors, je lui ai dit, écoutez, pour appartenir au Christ, pour être vraiment chrétien, il faut avoir l'Esprit du Christ en nous. Maintenant, je lui ai dit, comment on fait pour avoir l'Esprit du Christ en nous? Est-ce qu'il s'agit simplement de faire des bonnes œuvres? J'ai dit, c'est vrai que c'est bon de le faire, mais j'ai dit, allez voir dans Acte 5. Acte 5, verset 32, vous allez avoir la réponse précise à ce sujet-là. Acte 5, verset 32, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Et Pierre dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, alors on sait que pour appartenir au Christ, pour être chrétien, il faut avoir l'Esprit du Christ en nous. Alors Pierre dit ici, le Saint-Esprit que Dieu donne ou a donné à qui? À ceux qui lui obéissent. C'est simple, hein? Et ça, je pense que ça a ébranlé un petit peu le raisonnement, là, parce que pour avoir l'Esprit de Dieu, il faut obéir aux lois de Dieu. Donc, il faut observer le sabbat, il faut observer ses fêtes, il faut essayer de mettre en pratique ses lois. Quelqu'un qui fait des bonnes choses, un peu, mais qui n'observe pas le sabbat, qui n'observe pas les fêtes, qui ne va pas plus loin que ça, est-ce que la personne appartient à Dieu? Non, parce qu'elle transgresse le sabbat. Et si on transgresse le sabbat, on n'appartient pas à Dieu. C'est le signe par excellence. On le voit dans la Bible. C'est le signe par excellence comme de quoi on appartient à Dieu et comme de quoi on est chrétien. Matthieu 7. Matthieu chapitre 7. Encore là, c'est bien clair et ça va avec ça. Pour appartenir au Christ, il faut avoir l'Esprit du Christ en nous. Et pour avoir l'Esprit du Christ en nous, il faut obéir à Dieu, célébrer ses fêtes, observer son sabbat, s'améliorer dans nos façons de vivre pour que ce soit selon Dieu. Matthieu 7 et le verset 21, regardez ce que le Christ lui-même dit ici. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », ceux qui disent qu'ils font du bien, ça peut être du bien, c'est vrai, ceux qui parlent du Christ, c'est bien. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ah! Donc, il ne s'agit pas simplement de faire un petit peu de bien et puis d'être gentil. Non. Il dit, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, voyez-vous, il n'y a pas de marge pour interpréter ça autrement. Un vrai chrétien doit avoir l'Esprit du Christ. Pour avoir l'Esprit du Christ, faut s'appliquer à vivre selon les lois de Dieu, même si nous ne sommes pas parfaits, mais on doit se perfectionner et se purifier. Et le Christ dit bien clairement que ceux et celles qui vont entrer dans le royaume, c'est ceux-là seulement qui font la volonté de Dieu. Alors, voyez-vous, on voit qui est un vrai chrétien. La Bible le définit clairement et ne nous laisse pas dans le vague par rapport à ça. Allez à psaume 40 maintenant, psaume chapitre 40. Alors, je reviens à ça. Il faut être un vrai chrétien pour appartenir à Dieu et il faut s'appliquer à nous soumettre totalement à sa volonté. Psaume chapitre 40, un très beau psaume, très encourageant. Psaume 40 et le verset 9. Regardez ce que David dit ici. Dans la version Louis II en français, c'est écrit « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Ici, j'ai corrigé au-dessus, j'ai marqué le sens original de ce verset-là qui dit beaucoup plus que ça. Parce que dans la King James, dans la version anglaise du King James et dans l'hébreu original, on trouve ici le sens de « Je veux faire ta volonté, mon Dieu », c'est « Je prends plaisir à faire ta volonté ». Voyez-vous, il y a une autre dimension, là. C'est pas juste de le faire techniquement, parce que je suis obligé de le faire. « Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu ». C'est ça le sens original du premier bout de la phrase, au lieu de « Je veux faire ta volonté » simplement. « Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu ». Est-ce que j'en suis arrivé là? Pas encore au maximum. Je veux développer ça encore personnellement. Mais posez-vous la question, est-ce que vous en êtes arrivé à dire « Je prends plaisir à vivre selon les lois de Dieu et à faire sa volonté » comme Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait exactement la volonté de Dieu et il a pris plaisir à ça. Vous irez voir dans Hébreux 10, versets 5 à 7. Hébreux 10, versets 5 à 7. Il est écrit, c'est le Christ qui parle, « Je viens pour faire ta volonté, mon Père. » Et vous pourrez aller voir dans Jean 4, verset 34. Jean 4, verset 34, le Christ dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de faire son œuvre. » Ça revient constamment, constamment, constamment. Alors, le prince de notre salut avait ça comme objectif premier, de faire la volonté de son Père. Alors, c'est pas surprenant que nous, les chrétiens qui imitons le Christ, qui avons son esprit, nous voulions prendre plaisir à faire la volonté de Dieu. Philippiens 4. Philippiens chapitre 4. Verset 19. Regardez ce que l'apôtre Paul dit ici. Philippiens 4, 19. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Aussi, je prends plaisir à la loi de l'Éternel, à faire la volonté de mon Dieu. Quelles que soient mes circonstances et quelles que soient les frustrations de la vie, que je garde ça comme but actif, Dieu va réagir, Dieu va répondre. Et on voit la réponse ici. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Et même avec la gloire au bout de l'histoire quand il nous transformera en être spirituel. Psaume 37. On retourne dans le livre des psaumes. Psaume chapitre 37. Et le verset 4. Regardez ce que David dit encore. David avait cette attitude-là de dire « J'aime les lois de Dieu ». Tout le psaume 119, d'ailleurs, est un hommage aux lois de Dieu extraordinaire. Mais on voit que David obéissait pas à Dieu par force ou par obligation, mais par désir. Et il faisait de l'Éternel ses délices. Regardez ce qu'il dit ici, verset 4. « Fais de l'Éternel tes délices. » Tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Fais tes délices de ce que l'Éternel te demande de faire, de son plan, de ce qu'il a en réserve pour toi, de sa miséricorde, de son amour. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est formidable. Il y a des promesses incroyables attachées à ça. Et il y a des bénédictions que les chrétiens fidèles reçoivent qu'ils n'attendaient pas parfois et qui sont l'accomplissement de cette promesse-là ici. Quand les gens font de l'Éternel leur délice, il leur envoie parfois des bénédictions inattendues, tellement encourageantes. Et c'est ce qu'on a besoin. Regardez le verset 5. « Recommande ton sort à l'Éternel. » Même dans tes frustrations, même quand il y a quelque chose qui n'est pas selon ce que tu désires ou que tu as une déception majeure dans la vie sur laquelle tu n'as pas de contrôle, Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Voyez-vous? Mais il faut que je lui demande. Il faut que je mette en lui la confiance que je dois lui accorder. Un peu plus loin, Ésaïe 58. Ésaïe chapitre 58. Regardez ici, il parle du sabbat. Ésaïe parle du sabbat. Comment on doit voir le sabbat? Et le sabbat est vraiment une bénédiction de Dieu merveilleuse. Sans ça, on n'arrêterait jamais. Mais Dieu a mis de côté une période de 24 heures chaque samedi, chaque sabbat, pour qu'on cesse toutes nos activités, nos travaux, nos soucis, tout ça, on met ça sur la tablette. On se repose, on lit davantage, on peut le prier, on vient à la sainte convocation, et Dieu nous renforce de façon extraordinaire, et il ajoute des bénédictions incroyables. Et on est capable de faire en 6 jours plus qu'on faisait dans 7 avant, quand on travaillait 7 jours. Rappelez-vous qu'est-ce que M. Wenay nous disait quand il étudiait. Il était au niveau du doctorat, je pense, où il était à un niveau très élevé à l'université. Et puis, il n'arrivait pas. Non, il n'était pas au niveau du doctorat encore, mais il était à un niveau élevé à l'université. Il n'arrivait pas 7 jours par semaine à étudier tout ce qu'il avait à étudier, à faire tous les travaux qu'il avait à faire. Quand il est arrivé à l'église, et Moni a découvert le sabbat, puis il a dit, j'arrive pas déjà à faire ce que j'ai à faire. Puis je travaille 7 jours. Mais il a mis Dieu au test. Il a dit, tu me dis d'observer le sabbat, je vais le faire. Il s'est mis à observer le sabbat et il s'est rendu compte, pas longtemps après, que dans 6 jours, il était capable de faire plus qu'il faisait dans 7 jours avant et il y avait en prime un jour de congé qui était donné par Dieu. Parce qu'il arrivait le dimanche matin, il était frais et dispo pour reprendre ses études et là, ça entrait et sa mémoire fonctionnait mieux. Il était capable d'absorber plus de matière et ainsi de suite. Formidable! Mais ça, c'est un des fruits du sabbat. Et regardez ce que Ésaïe dit du sabbat ici, versets 13 et 14. « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon Saint-Jour, pour ne pas aller au sport, pour ne pas faire de travaux, pour ne pas s'occuper de nos affaires, c'est un jour de repos, complètement. Complètement. On prépare la nourriture d'avance, le jour de préparation, pour être vraiment arrêté le jour du sabbat. On peut se reposer, dormir un peu plus, aller prendre une belle marche, lire davantage sa parole, lui parler, aller à l'assemblée. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, voyez-vous? Tes délices pour sanctifier l'Éternel en glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants, à la télévision ou au sport ou à ces choses-là qu'on peut faire durant la semaine et à de vains discours, à parler des choses qu'on a à réparer sur notre voiture ou ces choses-là, ça reste en dehors. D'ici, tu fais pas ça, Dieu va te bénir. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. Alors, au bout de la ligne, bien sûr, il y a l'héritage éternel qui sera promis à ceux qui sont fidèles de ce côté-là. C'est triste de voir quand l'Église universelle de Dieu a implosé, que ceux qui étaient à la direction de l'Église à ce moment-là avaient déjà commencé à amener l'Église dans une mauvaise direction. Et on enseignait, je me rappelle, il y a encore des écrits là-dessus, que les dirigeants de la nouvelle Église universelle de Dieu disaient que le sabbat, c'était un fardeau. Je m'excuse, mais le sabbat, c'est pas un fardeau. Le sabbat, c'est un délice. Les délices que Dieu nous donne. Cette journée de paix qui nous fait rêver du monde à venir, ça représente la libération, le milan qui s'en vient. C'est pas quelque chose de pesant. Et c'est un repos pour nous, puis un ressourcement. Prendre de plus en plus plaisir à faire la volonté de Dieu. C'est le chemin qu'on doit suivre. J'essaie de réaliser ça de plus en plus, puis de dire merci à Dieu, puis de m'aider à voir l'obéissance à ses lois de cette façon-là. C'est pas un fardeau. Ça nous demande des efforts, oui, mais c'est pas un fardeau, c'est un délice. Et on doit arriver à le faire pour faire vraiment plaisir à notre Père. Mais je dirais aussi, attention au piège de notre cœur humain, qui parfois peut nous amener à croire que notre volonté, ou bien ce qu'on désire, nous, personnellement, très fort, qui est bien, là, ce qui peut être bien, on peut désirer quelque chose de bien, très fort, personnellement, mais peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais on a un cœur tortueux. Et ça peut arriver parfois que notre cœur humain nous amène à croire que notre volonté, parce qu'on veut tellement quelque chose, c'est la volonté de Dieu. Ça ne peut pas faire autrement. Parce que je cherche quelque chose de bon, de bien, puis j'ai besoin de ça, je désire ça, donc Dieu désire. Voyez-vous? Là, si on fait ça, parfois on fait une erreur. Parfois on met notre volonté, on la fait chapeauter, la volonté de Dieu. On dit, ce que je veux, c'est sûrement ce que Dieu veut, parce que c'est trop bon. Je le désire trop. Parfois, on veut tellement une chose qu'on s'imagine que Dieu veut la même chose. Je le dis en d'autres termes. Là, Dieu peut mettre sa main pour bloquer cette chose-là, pour que vous ne vous fassiez pas mal, ou que je ne me fasse pas mal, si ça arrive. Ou il peut nous laisser aller. Il a déjà fait ça avec moi. Je ne vous dirai pas dans quelles circonstances, mais il a déjà fait ça avec moi, où je pensais tellement que telle chose, c'était sa volonté, mais c'était la mienne. Et je lui imposais, pour ainsi dire. Il m'a laissé aller, mais j'ai frappé le mur aussi. Parfois, il permet qu'on aille jusqu'au bout et qu'on apprenne par les leçons de souffrance à ce moment-là. C'est moins intéressant, mais on apprend. Je peux vous le dire. On apprend. Alors, c'est pour ça que quand on cherche à faire sa volonté, il faut vraiment s'assurer que c'est sa volonté. Lui demander, chercher conseil quand c'est des décisions majeures qu'on a à prendre. Mais vous remarquerez, en tant qu'être humain au cœur tortueux, lorsqu'on veut tellement quelque chose, on cherche à ne pas demander conseil, justement, pour ne pas être dérangé dans ce que nous, on veut faire, dans le chemin qu'on veut aller. Et là, si jamais c'est le cas, on risque peut-être de mettre notre volonté par-dessus celle de Dieu et d'aller dans un sentier où on n'aurait pas dû aller. Vous savez, il faut lâcher prise et il faut lâcher prise sur nos propres désirs, nos façons de voir. Lâcher prise sur notre volonté, nos volontés humaines et nos entêtements humains, alimentés par le cœur humain qui est tortueux, qui désire avoir les choses à sa façon quand il le veut. Il faut lâcher prise et laisser Dieu nous montrer ce que lui veut. Ce que lui veut. Rappelez-vous le psaume 40, verset 9, on l'a vu tantôt. Je prends plaisir à faire ta volonté. Je prends plaisir à faire ta volonté. Et c'est le chemin du bonheur. C'est le seul chemin du bonheur. Deuxième moyen pour vaincre nos frustrations, c'est maintenir les priorités selon Dieu dans notre vie. Il faut établir des priorités. Une fois qu'on a découvert le but de la vie, il faut établir des priorités pour atteindre ce but-là. Et c'est pour ça que dans les quatre premières priorités, vous allez trouver ces priorités-là dans plusieurs des articles que l'Église a publiés. Première priorité, Dieu. Il faut que Dieu soit en premier dans tout, soit mon associé dans toute chose. Deuxième priorité, ma famille physique. Mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants, mes parents, si j'ai encore mes parents et tout ça, de prendre soin des miens le plus possible. La Bible dit bien que si quelqu'un ne prend pas soin des siens, à commencer par son conjoint, ses enfants et tout ça, il est pire qu'un infidèle. Alors, il faut prendre soin des nôtres. Alors, Dieu en premier, ensuite la famille, troisièmement, le travail. Bien faire ce qu'on a à faire dans tout ce que nous faisons. Comme la Bible dit, ce que tu trouves à faire avec ta force, fais-le avec ta force. Fais-le au mieux possible. Et quatrièmement, l'Église. Quatrièmement, l'Église. C'est l'ordre de priorité qu'il nous faut avoir. Vous savez, quand on regarde les dernières directives que le Christ a données avant de retourner au ciel, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Il a dit, « Je vais être avec vous jusqu'à la fin des jours. » On voit ça dans Matthieu 28, les derniers versets là, de 18 à 20. Il dit, « Je vais être avec vous jusqu'à la fin des jours. Allez à travers le monde entier, annoncez à tous la bonne nouvelle et je serai avec vous jusqu'à la fin des jours. » Et quand vous remontez au verset 18, vous voyez que le Christ dit ceci, « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. » Tout pouvoir a été donné au Christ. Et c'est lui qui doit vivre en nous, comme dit Galates 2.20. Galates 2.20 dit que le Christ vit en nous. Après qu'on a été baptisé, qu'on a été crucifié avec lui en passant par les eaux du baptême, il vit en nous par sa force, par sa présence, par sa puissance. Et le Christ a dit la même chose, dans le fond, à ses disciples, quand il a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps ». Demandez-lui. Demandez-lui. Encore là, il faut demander. Qu'il vous montre. Et demandez-lui de vous aider à avoir les yeux spirituellement ouverts. Avoir les yeux spirituellement ouverts. Je vais vous montrer quelque chose dans Acte 16. Acte chapitre 16. On va lire les versets 6 et 7. Puis on va voir ici qu'est-ce qui s'est passé. Paul avait comme but d'aller prêcher à deux endroits précis et il n'a pas pu y aller. Regardez bien. Acte 16, verset 6. Excusez. Versets 6 et 7. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Voyez-vous, Dieu agit de façon spéciale. Là, Paul a eu un songe, mais parfois, ce n'est pas un songe qu'on a, ou il y a une vision, c'est-à-dire. Mais parfois, ce n'est pas un songe. Parfois, c'est les circonstances qui, à un moment donné, se mettent à être contraire à la direction qu'on est en train de prendre. Puis ça, je dis, il faut avoir les yeux spirituellement ouverts et là, dire à Dieu, est-ce que c'est toi qui es en train de me montrer que je ne dois pas aller dans cette direction-là? Parfois, Dieu se sert des circonstances comme ça, mais il faut être proche de Dieu et être capable de déchiffrer ce que ça veut dire. Ou parfois, c'est dans le contraire, parfois, il y a des portes qui vont s'ouvrir grandes dans une autre direction. Il faut demander à Dieu, est-ce que c'est bien la direction que tu veux que j'aille? Ou s'il y a quelqu'un d'autre qui m'ouvre des portes justement pour m'emmener tranquillement loin de toi ou à m'emmener dans d'autres circonstances où je ne devrais pas me trouver. Et oui, c'est cette distinction-là que nous n'avons pas personnellement, mais qu'on doit demander à Dieu. Et Dieu répond. On a vu que Dieu répond à celui qui craint l'Éternel. Et Dieu va vous montrer le chemin. Et on aura besoin dans les temps qui viennent d'avoir ce discernement, d'être capable de voir dans les circonstances la main de Dieu parfois dans des choses qui arrivent pour qu'on n'aille pas dans cette direction-là ou de voir sa main qui nous empêche d'aller dans telle direction justement parce que ce n'est pas là qu'il faut qu'on aille. Ou qu'on ne doit pas aller plus loin parce qu'il n'y a pas d'issue et qu'on ne doit pas se faire mal et inutilement qu'on doit attendre sa réponse. On n'a pas la réponse automatiquement au point de départ. Lui, là. Mais si je suis proche de lui, il va me la donner au bon moment. Parfois, Dieu fait en sorte que les circonstances, je me rappelle, à un moment donné, il fallait qu'on quitte un endroit, il fallait qu'on déménage et on était attaché là où on habitait. On était membre d'église à l'époque et tout ça, il fallait qu'on s'en vienne dans une autre région. À ce moment-là, on trouvait ça difficile de partir. Mais Dieu nous a aidés. Je me demandais si c'était vraiment la volonté de Dieu même. Mais Dieu nous a aidés. Parce qu'à un moment donné, il y a eu des voisins qui ont vendu leur propriété, il y a eu des déménagements, et tout à coup est apparu toute une autre sorte de personnes que celles qu'il y avait dans la rue avant. Des gens plutôt douteux, avec des nuits plutôt agitées. Et ça s'est reproduit à 2, 3 ou 4 occasions, pas trop loin. Alors, on a vu la même chose, mon épouse et moi, on a dit, ah, Dieu nous montre que c'est le temps de partir. C'est le temps de partir. Quitter Sodome, là. Je veux dire, un peu comme il avait fait avec Lot qui hésitait à partir. Il nous a montré clairement que c'était le temps de partir. Alors, Dieu fait ça parfois, mais il faut lui demander. Et il nous répond. C'est vraiment encourageant de voir ça. Parfois, il nous empêche d'aller à telle place. Parfois, il nous dirige autrement. Parfois, il bloque la route, mais il faut être sensible. Il faut être alerte spirituellement pour voir ce qu'il faut faire, là où il faut aller, qu'est-ce qu'il faut décider. D'où, et j'insiste là-dessus, d'où l'importance absolue de prier Dieu chaque jour. Parce que nous dépendons de lui pour toute chose. Dernièrement, j'entendais un sermon d'un des évangélistes qui disait « On dépend de Dieu pour toute chose, même de chaque respiration. » Et la semaine dernière, en allant prendre une marche, cette idée-là m'est revenue et je me disais « Bon, à chaque respiration que j'ai, c'est Dieu qui me la donne. » Donc, je dépends vraiment de lui pour tout, là. Et c'est pas juste les respirations pour... là où je vais, est-ce que je peux réussir, est-ce que je peux comprendre ou non, et tout ça. Donc, je dois l'associer à ma vie encore plus. Ça m'a donné beaucoup à réfléchir. Troisièmement, garder une attitude positive. Garder une attitude positive. Ça affecte nos réactions. Si on a une attitude négative vis-à-vis de ce qui arrive, si tout de suite on devient négatif devant les circonstances, devant les réactions des gens, ça nous change, ça nous fait réagir de mauvaise façon, ça change nos rapports avec les autres, ça change même notre condition physique. Et j'en parlais dernièrement justement avec un médecin, et parfois, lui, il me disait que souvent, il y a des maladies qui sont dues simplement à des conditions d'attitude intérieure des gens qui sont tellement négatifs, qui viennent vinaigrer, pour ainsi dire, par rapport à ce qui se passe autour. Et ils en souffrent les conséquences. Dans leur corps, il y a des maladies qui apparaissent. Vous connaissez l'existence des maladies psychosomatiques qu'on appelle ce qui est à l'intérieur de nous comme émotion qu'on garde a de l'influence même sur nos réactions physiques. Alors, c'est important, garder une attitude positive parce que les frustrations viennent, je reviens à ça, c'est inévitable. Alors, si je garde une attitude positive, oui, il y a une frustration, oui, j'ai pas eu ce que je voulais, c'est pas comme je pensais, mais j'embarquerai pas dans cette voiture d'aller négativement puis de commencer à accuser les autres ou quoi que ce soit. Demandez à Dieu, montre-moi qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans et comment je dois réagir. Et la première réaction à avoir, c'est de rien faire. C'est de ne pas réagir, justement. Parce que souvent, on réagit trop vite. Et c'est là qu'on crée d'autres problèmes, parce qu'on réagit trop vite. J'aime beaucoup voir l'attitude de M. Meredith dans ce sens-là, qui essaie de voir tout le temps, vous remarquerez, il essaie tout le temps de voir le bon dans toutes les circonstances, même négatives. Et il essaie de voir le bon même quand les choses sont pas comme lui espérait. Et là, c'est encore un principe biblique. Vous irez voir dans Romains 8, 28. Romains 8, 28 dit que « Toute chose concourt au bien de ceux que Dieu appelle selon son dessein et qui essaie de lui faire plaisir. » Je le donne dans mes mots, en fin de compte, là. Mais ceux qui prennent plaisir à la voix de l'Éternel, les choses qu'ils vivent vont concourir à leur bien. Même l'implosion qui est arrivée à l'Église universelle de Dieu dans le temps, ça a été une bonne chose que Dieu a permis. On s'est demandé pourquoi ça arrivait. Monsieur Meredith l'a expliqué, les évangélistes l'ont expliqué, Monsieur Appartient l'a expliqué à plusieurs reprises en disant « Dieu a testé son Église. Dieu a passé au crible ceux qui étaient là pour voir ceux qui devaient rester, ceux qui étaient encore fidèles et ceux qui étaient réellement convertis. » Certains ont pu se retrouver plus rapidement, d'autres ont pris plus de temps à se retrouver, mais ont retrouvé le chemin de la petite Église qui a continué à partir de là, où les évangélistes se sont retrouvés, les mêmes évangélistes qui avaient été ordonnés par M. Armstrong, et ont continué la même œuvre, celle qu'on vit aujourd'hui et celle qu'on fait aujourd'hui. Voyez-vous? Alors, Dieu a permis. Dieu n'a pas été surpris de ça, au contraire. Même chose comme pour Joseph. On parle d'avoir une attitude positive. Joseph, jeune homme, la Bible ne dit pas de choses mauvaises de lui. Son père l'aimait beaucoup. Vendu par ses frères, rendu là-bas, vous savez ce qui lui arrive. À un moment donné, il se retrouve dans une position où il y a un bon poste en Égypte et la femme de son patron veut coucher avec lui. Il refuse parce que, justement, il veut obéir aux lois de Dieu. Il est emprisonné pour ça. Il est plusieurs années en prison. Est-ce qu'on parle de frustration ici? J'ai fait le bien. J'ai fait ce que Dieu me disait de faire, puis je suis en prison. Voyez-vous? Frustration, mais évidemment, Joseph a passé par-dessus. La Bible ne mentionne pas du tout, à aucun moment donné, que Joseph a remis en cause son rapport avec Dieu, ou n'a accusé Dieu ou quoi que ce soit. Il a été patient. Il a attendu de voir l'issue de l'histoire, la fin du film. Et vous savez la fin du film, ce qui est arrivé. C'est qu'à un moment donné, il a été sorti de prison, il est devenu deuxième en Égypte. Il a administré tout le royaume. Il a même pu sauver sa famille après. C'est la même chose pour vous. Les individus que Dieu appelle maintenant vont être ceux qui vont sauver, pour ainsi dire, leur famille, quand leur famille sera appelée plus tard. Soit dans le monde à venir, ou soit à la résurrection du grand trône blanc. C'est vous qui allez être là. Parce que vous avez été les premiers, peut-être, à être rejetés par ceux autour, à payer le prix même pour observer le sabbat, observer les fêtes, et ainsi de suite. Mais vous avez tenu le coup. Et vous allez tenir le coup si vous restez proche de Dieu. Vous savez, Dieu travaille à long terme. Et il faut persévérer dans la foi, même dans les épreuves. J'aime bien la prière de sérénité des alcooliques anonymes. Vous la connaissez peut-être. Ça s'applique bien dans ce sens-là. Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Le courage de changer les choses que je peux changer. Et Dieu, donne-moi la sagesse d'en connaître la différence. C'est superbe comme prière. Et c'est très juste dans l'approche que Dieu veut que nous ayons. Dieu veut qu'on soit positif, oui, travailler à changer les choses qu'on peut changer, mais pas celles qu'on ne peut pas changer, mais d'avoir la sagesse de faire la différence et de faire sa volonté. Philippiens 4. Philippiens chapitre 4, s'il vous plaît. Philippiens chapitre 4. Et le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est ça que je vous dis depuis le début du sermon aujourd'hui. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Il ne faut pas oublier ça. Et je dirais que la première façon d'approcher Dieu, c'est d'abord de le remercier de tout ce qu'il nous a jusqu'à date donné dans l'existence. Puis après ça, lui faire connaître nos besoins. Et ça qu'il dit, il dit... Ne vous inquiétez de rien. Au lieu de s'inquiéter et d'être frustré par ce qui nous manque ou ce qu'on n'a pas ou ce qu'on désire et ainsi de suite, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des remerciements. Et regardez la résultante de ça, les conséquences, comment Dieu va agir. Et la paix de Dieu, la belle paix d'esprit de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça, c'est des promesses merveilleuses, tellement encourageantes. Et après ça, les deux autres versets, c'est deux des versets préférés de M. Appartient. Il nous en a parlé souvent. Ça vaut la peine qu'on les lise. Versets 8 et 9. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voyez-vous, ne perdez pas de temps à penser des choses négatives, à en vouloir à un tel ou à un tel autre, à vouloir régler des comptes. Ou pas du tout. Que ce qui est vrai, que ce qui est pur, que ce qui est juste, que ce qui est beau soit l'objet de vos pensées. Si c'est ce que nous avons à l'esprit, ça plaît à Dieu. On peut l'en remercier des belles choses qu'il a faites et nous demander, lui demander de nous aider à en vivre et d'en faire profiter les autres. Et verset 9, « Ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, c'est Paul qui parle, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. » Et le Dieu de paix sera avec vous. Fantastique. Fantastique. Laissez Dieu être votre guide. Laissez Dieu être votre guide. Vous irez voir dans 1 Corinthiens 10, verset 13. On peut réclamer cette promesse-là aussi. Réclamer honnêtement cette promesse-là. Je dis honnêtement parce que si je réclame cette promesse-là, il faut que je sois en train de faire mon possible pour obéir aux lois de Dieu. Si je réclame honnêtement, avec un cœur sincère qui continue à vouloir changer pour plaire à Dieu, Dieu va me répondre. Parce que c'est marqué dans 1 Corinthiens 10, verset 13, qu'il n'y a aucune tentation ou aucune épreuve, aucune frustration, nommez-les, qui n'est survenue, qui n'ait été humaine. Et avec cette épreuve-là ou ce test-là, Dieu va vous donner le moyen d'en sortir. C'est une promesse. Alors, je peux aller devant Dieu et lui demander qu'il accomplisse cette promesse-là pour moi dans telle ou telle circonstance précise. Psaume 1. Psaume 1, s'il vous plaît. Fais de l'Éternel tes délices et il agira. On a vu ça tantôt. Psaume chapitre 1. Dès le début du livre des psaumes, voyez ce qui est écrit, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Qui ne va pas s'asseoir avec ceux qui, soi-disant, font de l'humour ou avec qui va s'asseoir dans des émissions qui prônent la sexualité perverse ou l'adultère, le mensonge, la violence ou ces choses-là. Il dit, asseyez-vous pas avec ces gens-là. Parce que si vous asseyez là, c'est ce que vous allez avoir à l'esprit. Vous n'aurez pas des choses belles, bonnes, pures, qui vous aident à aller plus loin. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir. Déjà, David ici parle dans ces termes-là, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre vert planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit, selon Dieu, n'oubliez pas. Si ce que je fais réussit selon Dieu, ça plaît à Dieu. C'est ça. Et je dois viser, réussir selon ce que Dieu veut voir de succès en moi. Pas ma définition du succès, mais sa définition du succès selon mes circonstances. Vous savez, on est actuellement à l'entraînement vers la maturité. C'est ça, on est à l'entraînement. Vous et moi, on n'est pas parfaits encore. On a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à changer encore. Il ne faut pas se décourager. Il faut regarder le chemin qu'on a fait, ça nous encourage. Et Dieu va nous aider à faire le reste du chemin, si nous, on est fidèles. Il va nous amener vers une victoire totale sur nos peurs, sur nos doutes, sur nos frustrations. C'est seulement par la présence de Dieu agissant en nous qu'on va pouvoir y arriver. Galates 2, verset 20 encore. C'est seulement par la présence de Dieu en nous qu'on va pouvoir y arriver. Un dernier verset dans Ésaïe, chapitre 26. Ésaïe, chapitre 26. Et regardez ce que dit le verset 3 ici. Ésaïe 26, verset 3. « À celui qui est ferme dans ses sentiments... tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Voyez-vous, il faut être ferme dans notre approche. Il faut que notre confiance en Dieu reste ferme et qu'elle devienne même plus ferme avec les expériences qu'il nous donne de vivre avec lui, à mesure qu'on voit sa manifestation, la manifestation de sa présence dans l'Église, dans nos vies. On s'affermit en obéissant de mieux en mieux à ses lois, en lui demandant son aide pour le faire, en lui demandant son aide pour nous purifier. Il dit à celui qui est ferme dans ses sentiments comme ça, tu assures la paix. Pourquoi? Parce qu'il se confie en toi. Vous savez, c'est important qu'on fixe, je dirais, notre pensée là, sur la grande perspective, sur la puissante majesté de Dieu qui nous donne tout ce dont nous avons besoin pour arriver au but. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour arriver au but. Je prends plaisir à faire ta volonté. Le juste vivra par la foi.